Bonjour, on se retrouve pour notre édition spéciale d'une semaine d'actualité et la suite de notre revue des grands événements de l'année 2016 qui s'achève ce soir. Second volet de cette rétrospective donc, toujours avec le reportage de la rédaction et notre invité Yann Mince du magazine Alternative Économique.
Une année d'actualité, Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour Yann Mince.
Bonjour.
Vous êtes toujours avec nous, vous étiez avec nous samedi dernier pour la première partie de l'année. Nous avons donc commencé cette revue à cette occasion. Et je voudrais qu'on reparle de votre éditorial du supplément d'Alternative Économique qui s'intitule « Quel avenir pour quel monde en 2017 ?» Éditorial intitulé « Un monde de brutes » et cette citation « Face à des brutes résolues et dotées de moyens, les gouvernants des démocraties plus soucieuses de valeurs humanistes, à défaut d'en être assez respectueuses, hésitent. »
Oui, elles hésitent parce qu'il y a toujours cette tentation au nom du réalisme de se ranger du côté des brutes, au nom du réalisme en disant après tout la force est efficace, et je pense à ce qui se passe en Syrie où effectivement Poutine et Assad sont en train d'imposer une paix, mais une paix des cimetières. Et un certain nombre de gouvernants occidentaux, je pense à Donald Trump, mais je pense aussi à François Fillon, sont tentés de dire après tout c'est efficace. Ils oublient juste une chose, c'est que ni Poutine ni Assad ne s'attaquent vraiment à l'État islamique qui est la priorité des pays occidentaux. Aujourd'hui, on voit une division du travail. Ce sont les pays occidentaux qui font le travail, si je puis dire,
et contre l'État islamique.
Et notamment les Américains. Et d'abord les Américains, parce que ce sont leurs avions qui sont les plus impliqués, marginalement les Français, les Allemands et d'autres. Et puis, du côté de Assad, on ne s'attaque pas du tout à l'État islamique, de Poutine non plus. On s'attaque aux autres groupes armés opposés au régime. Donc effectivement, il y a une espèce de flou d'hésitation du côté des démocraties occidentales, ça tombe d'entre elles en tout cas, ça tombe de responsables politiques occidentaux, de dire rangeons-nous après tout du côté des forts, c'est trop compliqué de les affronter, c'est trop coûteux, donc rangeons-nous à leur brutalité.
Et vous soulignez, Yann Mince, cette envie de chef qui existe dans certaines démocraties.
Oui, je suis très frappé.
Y compris en France,
cette envie de se ranger derrière quelqu'un qui a l'air résolu, qui est musclé, qui n'a pas l'air de douter, un espèce de père, P-E-R-E.
Père de la nation.
Père de la nation, oui, il y a quelque chose comme ça, une envie de chef, une envie un peu de machisme brutal, et je suis très inquiet de ça. On le voit dans un certain nombre de pays, c'est très clair en Turquie, c'est clair en Russie, évidemment, mais je sens monter aussi dans les démocraties occidentales et les partis populaires. En sont l'illustration, oui.
Une année d'actualité, donc, Yann a retrouvé sur la page une semaine d'actualité, sur le site, bien sûr, de la radio, RFI.fr. Nous allons donc continuer notre voyage dans le temps, dans la seconde partie de 2016, et allons au Brésil. Le 17 juillet, la présidente brésilienne Dilma Rousseff est destituée par les députés en avril. Elle sera aussi destituée par le Sénat au mois d'août. Correspondance de Martin Bernard.
L'opposition savoure sa victoire après la majorité écrasante à la Chambre des députés. Devant le Congrès, les sympathisants de l'opposition qui se sont rassemblés sur l'esplanade des ministères font la fête. Car les manifestations ont commencé il y a 3 ans, avant la Coupe du Monde de football, et ont pris une tournure de plus en plus politique. Le vote de la destitution est un peu comme un aboutissement pour des jeunes Brésiliens comme Bruna Goldberstein.
C'est une nuit qu'on attendait depuis longtemps, avec la chute de ce gouvernement corrompu, de ce gouvernement qui ne fait rien pour notre société. Ils sont démagos, hypocrite et malhonnête. Pendant 13 ans de gouvernement, on a souffert et maintenant on assiste à leur chute. Bon, disons qu'on n'est plus très loin de ça. On a franchi le premier obstacle. Le second, je crois qu'il sera encore plus facile de le franchir.
La prochaine étape, c'est le Sénat. Après la Chambre basse, l'opposition estime avoir le vent en poupe et sur le papier, elle semble même plus forte et plus soudée à la Chambre haute qu'à la Chambre des députés. Le calvaire de Dilma Rousseff risque donc de se poursuivre.
Une année dans le monde.
Octobre 2016, c'est le début de la bataille de Mossoul contre l'organisation de l'État islamique, une guerre de libération. Un reportage le 22 octobre de notre envoyé spécial Sami Bouhalifa dans le centre de commandement des forces irakiennes.
L'imposant général Fares Abbas s'est accroché à sa radio. Ces hommes déployés sur le terrain remontent en direction de Mossoul par le front sud. Ils transmettent leur position. Lui comptabilise les villages reconquis sur une énorme carte accrochée au mur.
Le centre de Mossoul est là. Et tous ces villages, nous les avons repris. D'ici jusqu'en bas de la carte, toutes ces positions sont à nous. 32 villages en tout. Nos opérations se concentrent désormais sur cette zone que nous allons aussi reprendre.
La carte du général mesure 3 mètres sur 4. Un plan resserré de Mossoul et sa province. Des flèches en bleu désignent les troupes irakiennes. Des croix rouges sont placées sur les principales localités autour de la ville.
En six jours, nous avons repris toute cette région alors que nous avions prévu 2 semaines. Daesh est un état de pacotille. Daesh n'existe que grâce à la surcommunication.
Au-delà de cette surcommunication, le groupe État islamique garde une importante force de nuisance. Tout autour du centre de commandement des forces irakiennes, d'épaisses colonnes de fumée noire assombrissent l'horizon. En se repliant, les djihadistes ont mis le feu au puits de pétrole.
Alors la bataille de Mossoul pour la reconquête est un des événements majeurs de cette année 2016, incontestablement.
Oui, en tout cas le début de la bataille, parce que le général irakien interviewé par Sami Bourlifa était un peu optimiste peut-être. Oui. Depuis, la bataille s'est un peu enquistée, c'est un peu plus compliqué que ce que les premiers jours laissaient penser. Effectivement, les djihadistes de l'État islamique opposent une résistance, notamment parce que ils se servent de la population civile de Mossoul comme bouclier, ce qui ralentit l'avance des forces irakiennes, sachant qu'il y a du côté irakien des forces extrêmement différentes. Il y a l'armée, et notamment les divisions antiterroristes qui ont été formées par les États-Unis, qui sont donc très efficaces, qui sont le fer de lance de l'offensive. Il y a l'armée régulière irakienne qui est moins efficace, il y a les forces kurdes, et puis il y a les milices chiites. Tous ces gens-là ont des objectifs différents, qui ne sont pas forcément convergents, ouais. Et ça promet, si effectivement la bataille de Mossoul se finit par une victoire de ces différentes forces, qui est probable, ça promet après la bataille de Mossoul un affrontement assez violent pour le partage des territoires et le partage des dépouilles. Oui.
J'ajoute qu'il faut suivre l'évolution de la situation à Mossoul ou ailleurs dans nos journaux. Je rappelle que nous faisons, nous, un récapitulatif de l'année 2016 dans ces grandes lignes. Vous avez déjà dit un mot d'Alep Est, mais il faut préciser que c'était une bataille sanglante dans l'impuissance générale, notamment des Nations Unies.
Oui, c'est plus l'impuissance des puissances occidentales, si je puis dire, qui m'impressionne. À partir du moment où la Russie est rentrée directement dans le jeu, jusqu'en septembre 2015, la Russie soutenait le régime de Bachar al-Assad, mais n'était pas directement présente militairement sur le terrain. À partir du moment où, en septembre 2015, c'était la première intervention hors de l'espace post-soviétique de la Russie, depuis la dissolution de l'Union soviétique, à partir du moment où les forces russes ont été présentes directement sur le terrain, il y a toujours eu du côté des pays occidentaux la crainte que s'ils intervenaient, il y ait un choc avec la Russie. Et on l'a bien vu, non pas avec une puissance occidentale, mais avec la Turquie. Cet incident aérien qui a abouti à ce qu'un avion russe soit abattu, ça a quand même fait monter la tension. Oui. Et je crois que globalement, les États-Unis n'ont pas eu envie d'intervenir sur le conflit syrien depuis longtemps. On l'a vu en 2013 quand Barack Obama avait fixé ses fameuses lignes rouges sur l'emploi des armes chimiques qui ont été franchies par le régime et qui n'ont donné aucune réaction des États-Unis. La France était beaucoup plus partante. Les Britanniques n'ont pas voulu parce que les députés britanniques n'ont pas voulu. Oui. Du coup, il ne s'est rien passé. À partir du moment où la Russie était présente sur le terrain, ça devenait beaucoup plus compliqué. Les puissances occidentales ont peur qu'un incident aérien, un incident militaire oppose l'armée russe à une armée occidentale avec les conséquences que l'on peut craindre, sachant qu'on a affaire à des puissances nucléaires. Et un incident, ça peut toujours monter en épingle.
Une année d'actualité.
Alors, direction les États-Unis maintenant, Yann Mince, pour un événement dont nous allons mesurer la portée à partir du 20 janvier, dans 3 semaines. C'est bien sûr la victoire surprise de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine. Écoutons sa première réaction le soir de son élection.
I've just received a call from Secretary Clinton.
La secrétaire d'État Hillary Clinton vient de m'appeler. Elle nous a félicités, je dis bien nous, pour notre victoire. Et je l'ai félicité ainsi que sa famille pour la campagne extrêmement combative qu'elle a menée. Hillary a travaillé dur pendant des années et nous lui devons reconnaissance et gratitude pour ce qu'elle a fait au service de notre pays. Il est temps à présent de guérir les plaies de la division et de nous réunir. À tous les républicains, les démocrates et les indépendants de ce pays, je veux dire qu'il est temps de nous retrouver pour former un même peuple uni. Je promets à chaque citoyen de notre terre que je serai le président de tous les Américains. À ceux qui ont choisi de ne pas me soutenir, il y en a un certain nombre, je me tourne vers vous pour avoir vos conseils et votre aide et pour que l'on puisse travailler ensemble à l'unité de notre grand pays.
Victoire donc de Donald Trump qui a ébranlé le monde, on peut le dire. Les grands électeurs ont avalisé cette victoire le 19 décembre dernier, il y a quelques jours. Donc il faut mentionner aussi qu'il y a un écart de plus de 2 millions de voix dans le vote populaire. Hillary Clinton arrive en tête et il faut aussi signaler qu'il y a cette enquête de la CIA et sur les attaques informatiques qui viennent de Russie apparemment, et qui auraient perturbé la campagne. Donc ça, c'est peut-être l'événement, enfin c'est sans nul doute un événement majeur, cette élection.
Incontestablement, je pense que très peu de gens l'avaient vu venir. Quand Donald Trump a remporté la primaire républicaine, tout le monde était un peu surpris, parce qu'au début, je me souviens, quand il s'est présenté, on disait, bon voilà, c'est pas très sérieux, c'est un type, pas un clown, mais en tout cas un acteur de reality show, un battleur. Et puis il a fini par convaincre une partie importante de l'opinion publique républicaine d'abord, et plus largement au-delà du premier cercle ensuite, puisqu'il a réussi à se faire élire. Effectivement, il a 2 millions de voix, plus de 2 millions de voix de moins qu'Hillary Clinton, mais grâce au système des grands électeurs, un suffrage indirect donc, et avec un poids différent des grands électeurs selon les États, il est arrivé à se faire élire. Ce qui veut dire que il a élargi sa base au-delà de ce qu'on pensait être son soutien initial, qui était en gros les milieux populaires ouvriers blancs déclassés. Ça veut dire que c'est important, mais ça ne suffit pas à faire élire un président, même avec 2 millions de voix de moins. Donc ça veut dire qu'il a aussi conquis une partie de l'électorat modéré, ou en tout cas un peu plus aisé que ces hommes blancs en colère d'origine ouvrière. Donc il y a effectivement une partie importante de la société américaine qui soutient Donald Trump.
Alors faut-il le craindre ? Beaucoup le craignent aujourd'hui. Ses premières déclarations
La difficulté de Donald Trump, c'est qu'il
raison.
La difficulté de Donald Trump, c'est qu'il a dit tout et son contraire pendant la campagne. Il a dit des choses, puis il est revenu dessus. Il a fait des déclarations, notamment en politique étrangère, qui sont étonnantes. Il a dit, par exemple, qu'à un moment, que le Japon et la Corée du Sud n'avaient qu'à s'équiper en armes nucléaires pour faire leur défense eux-mêmes, plutôt que de gaspiller l'argent des contribuables américains à les soutenir avec des forces sur place. Ce sont des choses extrêmement, extrêmement graves. On ne sait pas, on ne sait vraiment pas ce qu'il fera de ce qu'il a dit. On ne sait pas jusqu'où il aura envie de le faire, jusqu'où il pourra le faire. C'est l'indication qu'on a à ce jour, ce sont les nominations. Et ces nominations sont plutôt inquiétantes. Ouais. Ce sont des gens qui viennent de très grands...
Des conflits d'intérêts à répétition, en plus.
Oui, et puis a priori un contre-pied par rapport à ce qu'il avait dit. Il a beaucoup, cultivé les milieux modestes, etc. Et il nomme des gens qui sont des dirigeants de grandes entreprises. Alors, là où il est malin, c'est qu'il nomme des gens qui sont des dirigeants de grandes entreprises, mais qui n'ont pas fait de carrière politique. Or, il y a visiblement dans la société américaine un rejet de l'establishment politique. Donc tous ces gens qu'il nomme sont des gens qui ne sont pas dans les talk-shows télévisés entre hommes politiques depuis des années. Ce sont des têtes nouvelles venues de la grande entreprise.
D'ExxonMobil, par exemple, pour le futur
secrétaire d'État américain. Alors, avec une limite quand même, c'est que tous ces gens, leur nomination doit être avalisée par le Sénat.
C'est vrai.
Et il est possible que pour certains d'entre eux, possible, pas certain, puisque le Sénat est également contrôlé par les Républicains, qui soit invalidé. Donc pour l'instant, ce sont des nominations provisoires. Et on verra si, effectivement, au sein du Parti Républicain, il y a des gens qui sont prêts à aller jusqu'à l'invalidation, donc jusqu'à défier Donald Trump.
Alors retournons maintenant, Yann, en Amérique latine, et c'est une des rares bonnes nouvelles de 2016, la signature en Colombie d'un premier accord de paix entre le gouvernement et les rebelles des FARC fin septembre. Ça s'est fait en deux fois. Envoyé spécial, Véronique Guémard, donc fin septembre.
Lors de la cérémonie de signature des accords de paix, le chef des FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, a demandé pardon aux victimes. Un geste fort, très attendu par les millions de victimes du conflit. Mais alors qu'il termine son discours en parlant de la fin de la guerre et en citant Gabriel García Márquez, Un avion de chasse surgit en rasant le centre de convention.
La guerre est terminée. Nous commençons à construire la paix. L'amour de Mauricio Babilonia pour la Mémé pourra maintenant être éternel.
Un bruit strident qui glace le sang des participants. Rodrigo Londoño reprend alors la parole.
Bon, cette fois, il venait saluer la paix et pas larguer des bombes.
Puis le président Juan Manuel Santos commence son discours en rendant hommage aux victimes. Il salue les chefs d'État et les ministres présents et le chef des FARC.
Monsieur Rodrigo Londoño Echeverri, en effet, ces avions étaient un salut à la paix.
La cérémonie retransmise sur toutes les chaînes de télévision en Colombie marque donc la fin de 50 années de guerre entre le gouvernement et la guérilla des FARC qui va se transformer en mouvement politique. Bienvenue en démocratie, lui a souhaité le président colombien.
No más guerra.
Une année d'actualité.
2016 restera aussi l'année de la mort de Fidel Castro, le 25 novembre précisément, mort annoncée par son frère Raoul.
C'est avec une profonde douleur que je me présente devant vous pour informer notre peuple. Est décédé le commandant en chef de la révolution cubaine, Fidel Castro Ruz.
Hasta la victoria.
Alors, nous terminons cette première partie de ce voyage et la fin de notre revue de l'année internationale avec en Amérique latine avec d'abord cette bonne nouvelle. En deux temps, hein, on a eu d'abord ce premier accord soumis à référendum, le non à référendum et une nouvelle négociation. Enfin, en tout cas, la paix semble revenir en Colombie.
La paix semble revenir si effectivement les accords sont mis en œuvre, si les belligérants, les anciens belligérants respectent l'accord. Et puis il faut se souvenir qu'il reste quand même encore un mouvement de guérilla actif qui est le LN, l'Armée de Libération Nationale en Colombie, qui elle n'est pas encore rentrée dans le jeu d'un accord avec le gouvernement. Si la première version de l'accord de paix a été refusée, c'est parce qu'il y a eu un référendum et qu'effectivement ce référendum a été défavorable aux accords. C'est aussi la limite des capacités de mobilisation et de vote dans un pays comme la Colombie. Si les zones urbaines qui ont été les moins soumises aux effets de la guérilla ont pu voter, souvent elles ont plutôt voté contre l'accord, alors que les zones rurales avaient moins pu voter, alors que c'était elles qui avaient pu subir les conséquences de l'accord. Donc il y a un déséquilibre, ce qui me conduit à penser une fois de plus que les référendums sont un outil un peu compliqué à manipuler.
Alors la mort de Fidel Castro, la fin d'une époque.
La fin d'une époque, la fin d'un long règne autoritaire. On est toujours partagé face à quelqu'un comme Castro. C'est que, d'abord parce que c'est quand même lui qui a, enfin lui et ses hommes, bien entendu, qui ont renversé la dictature de Batista, qui était une épouvantable dictature corrompue jusqu'à la moelle, etc. Mais ensuite un long règne autoritaire sans partage avec le Fidel d'abord, puis son frère ensuite. Et alors. Indubitablement des réformes sociales, éducatives. Il y a, on le voit par exemple quand il y a des cyclones qui traversent Cuba et qui traversent Haïti, il y a beaucoup moins de victimes à Cuba. Pourquoi ? Parce que le système de santé fonctionne, parce qu'il y a un certain nombre de dispositifs de services publics qui fonctionnent, ce qui n'est pas le cas. Mais en même temps, à côté de ça, un règne autoritaire, la répression, les libertés étouffées, l'expression empêchée et pas de pluralisme dans les élections. Je ne suis pas sûr qu'il fallait payer d'un aussi long règne autoritaire des réformes sociales aussi importantes soient-elles.
Oui, en tout cas, c'est la fin d'une époque historique, objectivement.
Indubitablement. Et comme Raoul ne se représentera pas, c'est bientôt la fin du régime des Castro.
Yann Mince, nous allons marquer une pause, revenir à l'actualité de ces dernières heures et dans quelques 3 minutes, nous poursuivrons notre voyage dans le temps en France et en Afrique, toujours pour parler de la seconde partie de l'année qui s'achève. À tout de suite. Merci pour ces informations. On continue, nous, à parcourir les grands moments de l'année qui s'achèvent avec les reportages de la rédaction et notre invité Yann Mince du magazine Alternative Économique.
Une année d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Yann, il nous faut tout de suite revenir sur un nouvel attentat qui a endeuillé la France le jour de sa fête nationale, le 14 juillet, sur la promenade des Anglais à Nice. Bilan 86 morts et des centaines de blessés. Un hommage religieux leur a été rendu par les Niçois 24 heures après la tragédie. Reportage de Simon Rosé.
La messe a duré une heure, la cathédrale Saint-Réparate se vide, un hommage aux victimes vient d'y être rendu.
C'est une très très belle cérémonie, on a que de la pensée pour toutes ces personnes.
Moi je suis venu par respect pour les familles, hein, parce que c'était un jour où j'avais vraiment pas envie d'aller faire du jogging ou d'aller... D'aller à la plage, je me suis habillé.
Et comme cet homme, ils sont nombreux à délaisser la plage, les terrasses. À quelques centaines de mètres de là, sur la promenade des Anglais, un hôtel improvisé est apparu. Des Niçois viennent spontanément y déposer des fleurs.
On était hier soir avec ma copine. On vient ici pour tous ceux qui ont pas eu notre chance en fait, d'avoir réagi à temps, d'être partis à temps. Pour tous ceux qui n'ont pas eu cette chance-là, de réagir à temps, de ne pas se retourner, de ne pas sauter sur le sable, sur les galets, comme a pu faire mon papa avec mon petit frère. On est venu pour ça, parce qu'on est niçois et on ne sentait pas du tout que ça pouvait arriver ici.
À Nice, 24 heures plus tard, c'est la tristesse qui domine, mais également l'incompréhension. On a sans doute baissé notre garde, soupirait un jeune homme.
Et près de deux semaines plus tard, il y a eu un nouvel attentat avec cette fois le meurtre d'un prêtre, le père Jacques Hamel, dans son église à Saint-Étienne-du-Rouvray, en Normandie. Politique maintenant, avec la victoire de François Fillon à la primaire de la droite et du centre, on écoute l'ancien Premier ministre.
Depuis trois ans, je trace ma route à l'écoute des Français, avec mon projet, avec mes valeurs. Et progressivement, j'ai senti cette vague qui a brisé tous les scénarios écrits d'avance.
Politique toujours, avec cette fois la décision sans équivalent sous la Ve République d'un président, François Hollande, qui a décidé en décembre de ne pas briguer un nouveau mandat.
Aujourd'hui, je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle, au renouvellement donc de mon mandat.
Une année en France.
Suite de cette seconde partie d'une année d'actualité, alors le terrorisme encore en France.
Oui, et puis un terrorisme qui frappe, j'allais dire, encore plus au hasard. Les attentats de Charlie Hebdo étaient une rédaction contre des personnalités qui étaient connues. Les attentats du Stade de France, c'était déjà le tout venant. N'importe qui va au match de foot, les terrasses, c'était pareil. Et là, encore plus, c'est une grande fête populaire, le 14 juillet. C'est vraiment le bal, tout le monde, les feux d'artifice. Et tout le monde peut se dire qu'il aurait pu être là. Et je pense que c'est ce qui a aussi impressionné le plus l'ensemble des Français et au-delà de la France, je suppose. On se projette facilement dans le fait qu'on aurait pu être ce jour-là, à cet endroit-là, parce que les fêtes du 14 juillet, il y en a dans le moindre village de France. Ouais. Et ça donne lieu à beaucoup de débats sur ce qu'on appelle les loups solitaires. Est-ce que ces loups sont vraiment solitaires ou pas?
Apparemment non.
Je pense pas qu'on est jamais absolument solitaire, ne serait-ce que parce que on peut être en contact aujourd'hui sur les réseaux sociaux quand on est quelqu'un de radicalisé avec des gens qui sont en Syrie, en Irak, qui peuvent vous soutenir, vous donner des conseils, etc. Et je sais qu'après l'attentat de Nice, la filiale d'Al-Qaïda au Yémen a publié dans son journal électronique une analyse de l'attentat en disant que l'auteur s'était inspiré de conseils qu'il donnait dans un numéro précédent. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est possible. Ce qui veut dire qu'effectivement, la notion de loup solitaire est un peu imprécise. Disons. On n'est jamais vraiment complètement solitaire aujourd'hui.
Alors dans votre livre, 30 questions pour comprendre les tensions dans le monde musulman et dans ce supplément, Quel monde en 2017, édité par Alternative Économique, sous votre direction, vous revenez aussi sur ces questions du terrorisme, sur la question aussi du salafisme. Je ne lis pas systématiquement le salafisme au terrorisme, mais vous revenez effectivement sur cette question du salafisme.
Oui, parce qu'il y a la majorité des salafistes sont des gens qui sont plutôt en retrait par rapport à la politique, on les appelle les quiétistes. socialistes. Ils veulent pas faire de politique. Ils disent la politique, c'est la compromission, etc. C'est voilà des petits arrangements. C'est très loin de la pureté de la religion que ces salafistes recherchent. Mais à l'inverse, d'autres, au contraire, sont djihadistes. Eux veulent faire de la politique violente. La question, c'est de savoir si le salafisme, même non politique, prépare ou pas le terrain au salafisme djihadiste. Et j'ai interviewé pour le numéro d'Alternative économique Joas Wagemakers, qui est un spécialiste hollandais du salafisme en général, et dont l'opinion est que dans la plupart des cas, le salafisme quiétiste est plutôt un frein à l'évolution vers le salafisme djihadiste. En même temps, il le dit lui-même, les références religieuses, la façon d'aborder la religion sont la même du côté des salafistes quiétistes, donc non politiques, et du côté des djihadistes politiques. Donc effectivement, il y a quand même une facilité de passage, même si elle est loin d'être systématique, même d'après lui, c'est plutôt l'inverse. C'est rare le passage, mais ça n'est pas exclu.
Yann, la fin de l'année 2016 est aussi marquée en France par la politique et par la préparation de l'élection présidentielle. François Fillon à droite, là c'est décidé. François Hollande décide de ne pas se présenter et les primaires à gauche dans quelques semaines.
Un paysage très imprévisible par rapport à ce qu'on anticipait il y a encore 3 ou 4 mois. On voyait plutôt Sarkozy ou Juppé et puis en face Hollande. Donc on a un paysage qui est bouleversé. François Fillon, c'est l'homme un peu solitaire qui avait l'avantage, entre guillemets, je pense, pour un certain nombre d'électeurs, de n'être ni Sarkozy ni Juppé, mais qui marque clairement un virage assez conservateur et surtout très libéral. Ce qui est paradoxal, parce que la montée des partis populistes en Europe est en partie la conséquence des politiques néolibérales. Et François Fillon propose, pour empêcher cette croissance des partis populistes, justement une politique libérale qui les a plutôt favorisés. Et on a bien vu d'ailleurs que sur les questions de protection sociale, notamment les questions de remboursement de soins de santé, il est revenu en arrière déjà sur ses premières propositions, parce qu'il a bien senti qu'une partie de son public le plus populaire, les classes moyennes, était très inquiète de voir que l'assurance maladie serait moins efficace qu'elle ne l'était.
Ce qui risque peut-être de mécontenter ceux qui l'ont élu aux primaires, d'ailleurs. Parce qu'il a joué sa carte aux primaires, c'était « j'ai un programme et je ne dévierai pas de mon programme ».
Oui, les hommes politiques disent toujours ça. Ensuite, ils ont beau dire qu'ils ne regardent pas les sondages, ils les regardent quand même.
La décision de François Hollande vous a surpris ?
Oui, ça m'a surpris. Je pensais que c'était pas un bon candidat pour la gauche. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il y ait aujourd'hui de candidats très efficaces pour la gauche, mais c'était sûr que François Hollande avait un certain nombre d'inconvénients, et j'ai le sentiment que il a donné le dernier clou, si je puis dire, sur son cercueil politique avec ce fameux livre de confidences à des journalistes qui était un peu à la fois indécent et très contre-productif, parce que notamment parce qu'il tirait sur son propre camp et sur des gens qui l'ont soutenu et qui l'ont très mal pris. Du coup, je crois que ça a été le dernier clou, mais uniquement le dernier clou. Je pense que l'impopularité de François Hollande, elle est le résultat en partie de sa politique, peut-être aussi de l'absence d'explication de cette politique, une partie de manque de pédagogie.
Et en politique française, on va terminer avec ça, c'est aussi en cette fin d'année des tensions au sein du Front National.
Oui,
Front National qui est donné comme étant automatiquement avec Marine Le Pen au second tour, mais...
On verra. Il y a toujours eu deux ailes au Front National. Il y a en gros, on va dire, faire sa cour, les ultra-catholiques, ultra-conservateurs, donc très religieux, très nostalgiques du temps d'avant. Et puis avec Marine Le Pen, ça c'est... Et le père Le Pen faisait la synthèse un peu entre les deux, mais Marine Le Pen, elle a donné un coup de l'autre côté, du côté des gens plus modernes sur les questions de mœurs. Et on voit par exemple que Marine Le Pen, sur la question du mariage pour tous, a été extrêmement discrète, alors que sa nièce, Marion Maréchal Le Pen, qui incarne l'aile conservatrice plus catholique, ultra-catholique, disons, a été beaucoup plus présente. Et du côté de Marine Le Pen, non seulement un plus grand libéralisme, si je puis dire, sur les questions de mœurs, mais aussi un discours beaucoup plus à gauche sur le plan économique, beaucoup plus un État protecteur, etc., beaucoup moins libéral sur le plan économique. Ces deux tendances existent dans le Front National. Jean-Marie Le Pen faisait un peu la synthèse. Marine Le Pen a choisi l'une des deux contre l'autre, mais du coup, ça donne de l'espace à sa nièce Marion Maréchal de l'autre côté. On peut penser que le Front National n'explosera pas, parce que c'est pas l'intérêt ni de l'une ni de l'autre, ni l'actuelle dirigeante, ni sa nièce, de le faire exploser, surtout à l'approche d'un scrutin présidentiel, mais les tensions existent clairement.
Une année d'actualité.
Et nous allons partir maintenant pour l'Afrique, Yann, pour parler de la deuxième partie de l'année sur le continent. Avec le 27 août, une élection présidentielle contestée au Gabon, victoire officielle d'Ali Bongo lors d'un scrutin, encore une fois, fort discuté. D'ailleurs, Jean Ping, le candidat de l'opposition, se considère alors comme le vainqueur.
Ma déclaration est claire. Je suis l'élu. Je suis l'élu. Maintenant, le fait de devenir président, il y a quand même une procédure. Une fois que vous êtes élu, on vous appelle le président élu aux États-Unis. La passation des services, la prise du pouvoir, c'est la prise de possession des bureaux est une autre histoire. Nous avons les procès-verbaux. Ça ne peut être que des résultats crédibles. Tout ce que nous indiquons là, nous sommes en possession des procès-verbaux. Ce n'est pas une pression, c'est un fait. Maintenant, je crois qu'il faut reconnaître les faits.
Alors en septembre, des émeutes ont éclaté à Libreville, la capitale, quand la Cour constitutionnelle a validé ce résultat. A noter en particulier une attaque de la police contre le quartier général de l'opposition. Écoutez ce témoignage d'un des militants présents sur place.
Et on a fait juste le barrage, les feux, tout ça. Ils sont venus peut-être 3-4 contingents. C'est d'abord la gendarmerie, ensuite la GR a contrôlé pour nous encercler. On a passé toute la nuit à se cacher. On était à l'intérieur du QG. Ils sont rentrés avec la force, ils ont cassé toutes les portes, toutes les voitures des leaders, faire le désordre carrément. Où est la démocratie? On n'a pas le droit de rentrer au QG des leaders politiques de l'opposition pour aller frapper les gens, tirer sur les gens quand même. On dormait, ils ont défoncé les portes, on était tous allongés, on essaie de faire maintenir le maximum de silence possible, quitte à faire en sorte qu'ils ne puissent pas nous repérer. Mais malheureusement, vous savez, dans une salle où les gens, il y a des gens qui sont morts et d'autres sont malades, il y a des gens qui toussent, des gens qui paniquent et tout, etc. Ils nous ont repérés à 6h, 5h30, 6h par là. Ils nous ont fait sortir de force. Il y en a des gens qui sont blessés, quand on frappe encore la matraque dessus. Mais franchement, attendez, on est dans une démocratie ou dans une monarchie?
Une année en Afrique.
Manifestation en septembre aussi en République démocratique du Congo. Cette fois, des affrontements meurtriers se sont produits entre des partisans de l'opposition qui réclamaient le départ normal prévu de Joseph Kabila et la police, alors qu'une élection présidentielle devait normalement avoir lieu. Un reportage le 19 exactement de Kamanda wa Kamanda.
Et aujourd'hui, nous disons non à M. Kabila. Il doit partir. On ne veut pas de lui.
Prédéterminés, les manifestants criaient haut et fort leur volonté d'en finir avec le pouvoir en place. Ils ont déclaré que l'opposition retournera dans la rue aussi longtemps qu'elle n'aura pas atteint son objectif.
Nous nous sommes déterminés et nous allons commencer les actions de maintenant jusqu'à le 19 décembre. En cas où le monsieur ne veut pas respecter notre condition et quand il ne veut pas quitter, et il trouvera le peuple dans son chemin.
Les jeunes ont évoqué un avenir, leur avenir qui est hypothéqué.
Dès maintenant, nous nous prenons en charge. Nous n'allons pas nous laisser faire. Parce que c'est notre avenir qui est sacrifié. Donc M. Kabila, il doit se préparer en conséquence. S'il veut demeurer au pouvoir, qu'il extermine toute la population. Nous n'allons pas lui laisser faire.
Réplique du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Evariste Boshab. La ville de Kinshasa a vécu une tentative d'insurrection.
Alors on le sait, Joseph Kabila a nommé il y a quelques jours, en décembre, un gouvernement et d'autres manifestations ont eu lieu. La situation en République démocratique du Congo est évidemment à suivre dans nos journaux. Suite d'une année d'actualité, alors là ce sont également les soubresauts, on en parlait déjà le samedi dernier, de la démocratie africaine en 2016, Libreville.
Oui, soubresaut, et puis ce sont des régimes dynastiques, je dirais presque, puisque les deux présidents concernés, le président Bongo et le président Kabila, sont des fils eux-mêmes
de
chefs d'État. Oui, ce sont des affaires de famille. Dans le cas du Gabon, on a bien vu qu'il y a un certain nombre de circonscriptions, dans le Haut-Gué notamment, où les résultats sont un peu suspects.
Attesté d'ailleurs par une enquête de l'Union européenne.
Oui, absolument, absolument. C'est cette qui a posé des questions sur la sincérité de ces résultats. On pouvait se douter effectivement qu'ils n'étaient pas sincères. La grande difficulté, effectivement, c'est est-ce qu'il faut ensuite que l'opposition utilise la force pour faire prévaloir le droit. Jusqu'à maintenant, l'opposition gabonaise ne l'a pas fait, et je dirais tant mieux, parce que on ne sait pas comment ce genre de situation peut ensuite déraper. Mais c'est vrai qu'on est face à un régime qui a décidé de se maintenir à tout prix, en espérant que la population restera passive, ou en tout cas finira par se résigner, ce qui semble être le cas.
Alors, Joseph Kabila, Il devrait normalement être soit réélu ou soit parti du pouvoir.
Oui, Joseph Kabila a inventé une sorte de coup d'état mou par l'état civil, puisque c'est le fait que les listes de électeurs ne sont pas établies qui lui permettent de se maintenir au pouvoir. Donc, objectivement, il n'a pas intérêt à ce que les listes soient établies trop rapidement, ni même qu'elles soient établies un jour peut-être. En tout cas, il faudra bien que cette situation se dénoue. C'est plus compliqué pour lui d'imposer une révision de la Constitution, ça sera difficile. Mais donc il joue la montre, il joue le pourrissement d'une situation. Alors est-ce qu'il arrivera à une situation à la Poutine-Medvedev où le président met un homme de paille pour lui succéder et puis en attendant de reprendre le pouvoir? On peut l'imaginer, par exemple.
Alors, l'actualité en Afrique, dans la deuxième partie de l'année, c'est aussi la décision de la Cour pénale internationale de condamner le djihadiste malien Al-Mahdi à 9 ans de prison pour la destruction du mausolée de Tombouctou. Ça, c'est une décision qui a été remarquée. Et puisqu'on parle de la CPI, il faut noter aussi la décision de pays africains de quitter la Cour.
Oui, la décision de plusieurs pays africains. Alors le Burundi, c'est pas extrêmement surprenant. Ce qui est beaucoup plus inquiétant, à mon sens, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, d'abord, c'est un pays qui compte en termes de poids sur le continent. C'est pas que le Burundi ne compte pas, mais l'Afrique du Sud est un pays plus peuplé, plus influent sur le plan économique, plus influent sur le plan stratégique et politique. On se souvient d'ailleurs que le règlement du conflit burundais dans les années 2000 s'est fait grâce à une médiation de l'Afrique du Sud. C'est très accablant de voir aujourd'hui un pays comme l'Afrique du Sud décider de se retirer de la CPI. Quand on pense à l'héritage de Mandela, moins celui de Thabo Mbeki, et quand on voit ce qui est aujourd'hui devenu l'Afrique du Sud sous Zuma, je suis très triste de voir cette évolution.
Ouais, donc il y a une certaine inquiétude quant au sort de la démocratie en Afrique quand même.
En tout cas, de l'état de droit à la démocratie, il faut voir, mais en tout cas, l'état de droit et la conception de la justice. Je veux dire que la Cour pénale internationale soit pas une juridiction internationale parfaite, bien entendu, c'est une juridiction jeune encore. De là à s'en retirer pour des pays qui avaient choisi de l'intégrer, c'est extrêmement décevant, et surtout de la part de l'Afrique du Sud, vraiment, je trouve ça très 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 triste.
Une année dans le monde.
Allez Yann Mince, on va prendre de la hauteur et arrêter un instant de parler des catastrophes du monde en 2016. Nous allons quitter la Terre et ses soubresauts donc pour rejoindre Thomas Pesquet qui tourne au-dessus de nos têtes dans la Station Spatiale Internationale désormais et qui publie plein de photos qui se retrouvent soit dans la presse, soit dans les réseaux sociaux. Ça va nous faire un peu de bien d'aller dans l'espace. Et écoutons ce reportage de Simon Rosé lors du décollage de Soyouz le 17 novembre dernier.
Voilà le bruit que fait une fusée Soyouz au décollage. 20 millions de chevaux de puissance dégagée. C'est ce qu'il a fallu pour propulser Oleg Novitski, Peggy Whitson et Thomas Pesquet en orbite sous les yeux de sa famille et sa compagne Anne Mottet.
Je suis très très heureux, c'était magnifique. J'étais complètement éblouie. J'ai même pas vu la séparation des boosters parce que j'en avais encore plein les yeux. Je pleurais de joie, c'était magnifique. On était tous ensemble, on n'a même pas eu froid tellement on était serrés les uns contre les autres. C'était magnifique. Et puis au bout de 4 minutes, on a pu les voir sur l'écran. Donc on a vu que Thomas était tout à fait serein, en train de lire ses procédures. Oleg qui réagissait au quart de tour. Donc non, tout va bien, on est très contents. Puis maintenant, ils sont en orbite. Et on a rendez-vous dans 48 heures pour le docking, un peu plus.
Le docking, l'amarrage à la Station Spatiale Internationale, ce sera samedi soir, le temps qu'il faut à la capsule Soyouz pour la rattraper. Cette entrée dans la station marquera véritablement le début de la mission scientifique de 6 mois de Thomas Pesquet. Mais en attendant, il est officiellement devenu le 10e astronaute français.
Yann, au-delà du cocorico, le fait que le 10e français soit dans l'espace en ce moment même, c'est toujours fascinant de parler de l'espace, je trouve.
C'est fascinant de penser que ces hommes sont suspendus au-dessus de nos têtes.
Ils passent peut-être en ce moment au-dessus de nos têtes.
Absolument, j'ai pas calculé le moment où ils passent au-dessus des studios de RFI, mais je suis toujours partagé entre l'envie de voir ce que voit Thomas Pesquet et ses collègues depuis là-haut, et puis la peur de la claustrophobie. Je suis à peu près persuadé que je n'arriverai pas à supporter un enfermement comme ça pendant si longtemps, même si le spectacle doit être fascinant. Je serais curieux de savoir ce qu'ils vont penser du monde en rentrant. quand ils remettront le pied, dans quel état ils vont retrouver le monde et ce qu'ils en penseront en rentrant.
Il faut noter d'ailleurs que la station, il s'agit d'une station internationale, donc dans l'espace, la communauté internationale, avec tous les guillemets que nous mettons quand nous employons cette expression, existe. Pour l'instant, une coopération entre les Américains et les Russes, toujours dans l'espace.
Pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. Je serais un peu plus inquiet le jour où on commencera à pouvoir éventuellement s'installer sur des territoires, des bases sur la Lune, etc. Où là, je crains qu'on commence à avoir des querelles territoriales, surtout si jamais il y a, je sais pas quoi, des minerais, des choses à exploiter. J'ai très peur.
Vous êtes toujours inquiet. Moi, j'essayais d'être un peu optimiste.
Pour l'instant, c'est vrai. Vous avez parfaitement raison. Ouais. Pour l'instant, il y a une coopération. Maintenant, surtout.
D'autant que je voulais, pour conclure ce magazine, cette rétrospective, parler un petit peu de l'année 2017 qui se profile. Alors, à chaque fois, vous avez dû le remarquer, qu'on parle de 2017 dans les conversations, on a l'impression qu'on est à la veille de la Troisième Guerre mondiale.
Oui, je pense qu'il y a une inquiétude.
Il y a une inquiétude générale.
Il y a une inquiétude qui est liée au fait, et c'est probablement un retour de la guerre froide, au fait de la montée en puissance de la Russie, de la brutalité de Vladimir Poutine, et du fait que les autres pays sont soit désarmés, c'est-à-dire ils savent pas comment arrêter Poutine, soit sont prêts, dans le cas de Trump, à faire un partenariat avec lui. On verra jusqu'où ira le partenariat de Trump, mais il y a cette prédisposition chez lui, visiblement, à dire on peut s'entendre avec ce type, il est fort, et donc entendons-nous entre puissants. Comme on craint ce que veut faire Poutine, il y a toujours cette peur, je pense, rémanente de la guerre froide, etc. Sachant qu'il faut quand même se rappeler que les deux plus grandes puissances nucléaires de la planète, ce sont les États-Unis et la Russie, précisément. Donc un incident qui dérape entre ces deux puissances, ça peut être une guerre nucléaire. Ce qui, pendant plusieurs décennies maintenant, a semblé, comment dire, invraisemblable, revient comme une possibilité. Ouais. Donc je pense que ça participe effectivement de l'inquiétude. Oui.
Donc j'espère que vous avez tort, et j'espère que tout se passera bien. On y croit.
Hein. Croyons-y. 2016, c'est pas très bien passé, mais il n'y a pas eu de guerre, de Troisième Guerre mondiale, donc c'est déjà ça de pris.
Alors Yann, je répète à chaque fois, chaque année, avec plaisir, que vous êtes aussi auteur de livres pour enfants. Je ne sais pas s'il y a une actualité cette année. Et critique de jazz au quotidien La Croix, une chronique hebdomadaire tous les 15 jours.
Chronique et un album, effectivement.
Et la tradition va être respectée. Chaque année, nous choisissez un morceau, un CD de l'année. Selon vous, de qui s'agit-il cette année?
Alors, il s'agit d'une jeune trompettiste française qui s'appelle Erel Besson, qui a sorti son premier album sous son nom. Jusque-là, elle avait déjà participé à différentes formations, dont une d'ailleurs que j'avais eu le plaisir de conseiller aux éditeurs de RFI il y a quelques années, qui s'appelait Rocking Chair. Là, elle sort un album sous son nom qui s'appelle Radio One.
Donc c'est pour nous, ça.
C'est pour vous, tout à fait. Et c'est un album en quartet avec une chanteuse suédoise qui s'appelle Isabelle Sörling et deux musiciens français, Benjamin Mousset au clavier et Fabrice Moreau à la batterie. Et j'ai choisi pour cette fin d'année et ce début d'année qui vient une chanson très RFI, si je puis dire, qui s'appelle Around the World, donc autour du monde.
Around the World.
Voilà. Et je trouve que la combinaison entre la voix et la trompette est très réussie.
Merci Yann Mince du magazine Alternative Économique. Donc je recommande ce supplément, Quel Monde en 2017, ce livre 30 questions pour comprendre les tensions dans le monde musulman, publié aux éditions Les Petits Matins. Merci d'être venu en cette fin d'année.
Merci à vous d'avoir accueilli, merci.
Et on se retrouve en 2017 pour suivre justement les soubresauts de cette année.
Avec grand plaisir.
Une année d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Merci à Eugénie Ducret, Cécile Rogue et Laurence Sarniguet pour la documentation sonore. Je vous retrouve demain pour le magazine Idées. Nous vous proposerons de découvrir ou de redécouvrir le numéro que nous avions consacré à ce que l'on appelle les people. Je sais que ça vous passionne, les people, Yann, avec notre invité Guillaume Herner. Demain dimanche, 17h10, heure de Paris, pour le premier jour de l'année. Et retour à une semaine d'actualité, bien sûr, dès samedi prochain. Bon week-end, profitez bien des dernières heures de 2016. Bonne semaine, dans un instant, un nouveau journal sur RFI. Turning